I wanna be my girl.
10h55, merci d'être bien branché sur Boulevard 102.1. On est allé, on avait peut-être des espions sur place en fin de semaine lors de la cérémonie d'assermentation de nos échevins à la Ville de Québec. Je pense que notre espion, c'est Éric Boulay. Y a-tu été invité au Château Frontenac, tu penses?
Eh bien, moi, d'après moi, oui, parce que on veut, c'est une priorité pour l'administration Marchand, l'itinérance. Donc, je pense que si on fait une inauguration, si on fait une assermentation, oui, on invite les gens qui travaillent fort en itinérance avec les gens.
Donc, l'invité d'honneur, ça aurait été Éric Boulay, selon toi?
Ben moi, je pense qu'Éric Boulay aurait dû être en invité d'honneur, mais peut-être que ça aurait fait une moins bonne photo.
Ah, ben, pourquoi? Il est laid, quoi?
Non, c'est juste que tu sais, la photo des noces qu'on a parlé tantôt.
Oui, la photo de
lui. Tu peux pas prendre cette photo-là avec Éric Boulay? À moins qu'il invite sa femme qui décide de se marier au château. Je sais pas, là. Je sais même pas si Éric est marié, là. Je lance des affaires comme
quelle
ça.
Quelle histoire! On a idée de l'inviter parce qu'on sait que c'est pas facile ces temps-ci dans le secteur du centre-ville de Québec. Beaucoup d'itinérants qui ont peine à recevoir des services. Puis Éric Boulay et toute son équipe de la maison L'Aube-Rivière travaillent extrêmement fort. On va l'accueillir. Salut, Éric.
Bon matin. Content d'être là avec vous ce matin.
T'as-tu été manger du caviar en fin de semaine avec les échevins au Château
Frontenac? Je vous sens très sarcastique. Je vous comprends, en effet, parce que on a besoin de sous pour toutes sortes de projets, pour le filet social. Mais en même temps, j'ai une très bonne communication avec l'équipe de la ville, particulièrement avec la conseillère Marie-Pierre Boucher qui s'occupe du dossier du développement social.
Ouais.
Puis là, il y a Eleni Lepage qui vient d'être élue dans Saint-Roch, qu'on connaît bien, pour lequel j'ai une très grande oreille. Fait que je suis pas... J'ai pas de misère à communiquer avec la ville pour... même ce matin, là, encore, il fallait que je fasse un petit topo pour savoir qu'est-ce qui s'est passé cette nuit. Puis ça va bien au niveau des communications avec la ville pour moi.
Tu vas nous dire qu'est-ce qui s'est passé cette nuit. Moi, hier matin, j'étais avec mes gars. On était à Québec, là, dans le quartier Saint-Roch. J'habite là maintenant. Puis on est passé à côté... on est passé sous la terrasse du Frein Montmorency. Pas la terrasse, mais les passerelles du Frein Montmorency. Puis il y avait une trentaine, une quarantaine, même une cinquantaine de personnes qui s'affairaient là pour passer la nuit en raison de la tempête qui s'en venait. Pas beau ce qu'on vit ces temps-ci à Québec, là.
Non, il y a beaucoup, beaucoup de souffrance à Québec. Il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à avoir une réponse à leurs besoins de base, se réchauffer, se nourrir. C'est difficile. Nous autres, on fait plus qu'on faisait avant. Maintenant, on fait des miracles. On réussit à placer 160 personnes dans 131 lits dans un 24 heures. On dépasse même la capacité de ce qu'on est capable de faire. Malheureusement, je parlais avec mes équipes cette nuit. Ça a été difficile. Il y a une vingtaine de personnes qu'on n'a pas été capable de prendre faute de place encore cette nuit. Puis là, quand on dit cette nuit, là, n'importe qui fait de la survie en forêt là, sait que ces conditions-là, là, 0, moins 1, c'est super difficile parce que tu viens tout mouiller. Là, le froid s'empare de toi. Écoute, cette nuit, on a eu un cas d'hypothermie. Ça, c'est difficile pour ma gang qui vivent beaucoup d'impuissance là-dedans. On a eu deux personnes en crise suicidaire qui menaçaient de s'enlever la vie si on n'ouvrait pas les portes, si on les aidait pas. Fait qu'imaginez-vous sur le terrain tout ce qu'on vit à chaque soir, à chaque jour.
Tu veux pas être la personne qui est clé pour ouvrir la porte. Là.
Absolument. Là, on étire. Hein? Ma gang étire avec raison. On a un petit portique pour l'entrée à la halle. T'en as qui attendent là, le temps qu'un lit se libère puis qu'on mette la prochaine personne.
Mais comment ça fonctionne? Explique-moi, j'ai jamais été à L'Aube-Rivière, dans le secteur où les gens peuvent dormir. Fais-moi rentrer à L'Aube-Rivière en situation de crise, comme hier, exemple.
Alors, on a plusieurs niveaux de services à L'Aube-Rivière. On a les services que je dis de base, qu'on connaît, là, hébergement, soupe populaire. Bon, tu t'en vas à L'Aube-Rivière, j'ai besoin d'hébergement pour 7-10 jours. Un intervenant va évaluer tes besoins avec toi, faire un plan de sortie, etc. Soit dit en passant, cette formule-là marche bien. Là. Une personne sur deux, après une seule visite, on réussit à trouver des outils pour les remettre sur pied. Fait avec les leviers qu'on a, ça va bien. Maintenant, dans les personnes en situation d'itinérance plus chronique, les gens qui reviennent, qu'on connaît plus, là, où c'est plus difficile, on a des services qu'on dit à haut seuil de tolérance. Ça veut dire peu importe l'état que t'es, peu importe l'heure qu'il est, si t'as un chien, un chat, n'importe quoi, tu peux venir à L'Aube-Rivière chercher des services. Alors là, c'est ouvert 24 heures sur 24, le dégrisement aussi. On a 25 lits que je dirais d'urgence 24-7. Là. L'entrée est sur la petite ruelle, la rue de Xian. Alors, c'est premier arrivé, premier servi. En fait, c'est à pleine capacité tout le temps, ça. Dès que quelqu'un s'en va, on laisse personne dehors. Là.
On en a un autre qui embarque,
puis on roule
on
comme
nettoie,
ça.
On nettoie, puis on embarque.
Puis même, je
vous
dirais, là, au bout de 7 à 8 heures, quand la personne a dormi un peu, on va aussi la réveiller pour l'accompagner. Puis évidemment, Ça, ça ne règle pas le problème d'itinérance, là. On parle de services d'urgence, de base, là. Mais on se sert de ça pour créer des liens pour aller aux autres étages, aux autres niveaux. Parce que des fois, on peut amener la personne à l'hébergement, après ça, au rétablissement. Le programme PRIS, maintenant, où on a un psychiatre, on a des intervenants. Écoute, il y a des gens, il y a une madame, là, ça fait 20 ans que je la vois. Peut-être que tu vas te dire de quoi dans Saint-Roch, là, mais toute couettée. Je ne sais pas si elle a déjà passé un peigne dans ses cheveux, là, mais... Puis, tu sais, écoute, j'ai beaucoup de sympathie pour cette madame-là, puis j'ai beaucoup... Écoute, la semaine passée, j'ai eu une conversation avec elle. C'est la première fois qu'on réussissait
à... La première fois en 20 ans.
Oui, c'est ça, exactement. Grâce au programme PRIS, grâce à l'accompagnement avec le psychiatre puis l'équipe qui est maintenant sur place,
incroyable.
On a réussi à défaire cette espèce de mur-là qui la séparait d'aller chercher de l'aide puis être capable de faire un lien. Fait que oui, des fois, il y a des situations qui sont très désespérantes, là, mais il n'y a pas de situation désespérée. Là, hein. Chaque jour, ça me le dit. C'est plus complexe chez certaines personnes, ça prend plus de temps aussi. Puis on a souvent dans notre tête, surtout pour les gens qui gravitent dans Saint-Roch, quelques visages qui nous marquent parce qu'on les voit régulièrement. Mais vous savez, en 24 heures à l'Aubrivière, il y a plus de 450 personnes qui vont passer chercher des services.
Il y a une itinérance cachée aussi qu'on ne voit pas.
Il y a une itinérance cachée. À chaque personne qu'on voit dans les services en itinérance, il y en a 9 autres qu'on ne voit pas. Parce que la première tendance pour s'en sortir, c'est se tourner vers sa famille, se tourner vers un réseau naturel ou s'organiser. Tu sais, plusieurs personnes en squat, là, en appartement, avec en chambre qui se partagent ça, ou de l'itinérance de divan que j'appelle, là. Tu vas chez ton beau-frère une fois jusqu'à temps qu'il ne soit plus capable, tu vas ailleurs après, etc. Là.
Dans le secteur de Sainte-Foy, puis c'est un auditeur qui m'a confié ça, la semaine dernière, quand on a parlé de l'itinérance, son frère s'est loué un stationnement souterrain pour pouvoir dormir dans sa voiture, dans le stationnement souterrain, puis il va prendre sa douche au gym. Puis lui, là, il fait du 8 à 5. Il va travailler, il va faire son 8 à 5. Et sa maison, c'est sa voiture. Puis le soir, pour aller dormir, il s'en va dans le stationnement chauffé dans le secteur de Sainte-Foy. Ça coûte aux alentours de 200$ par mois, se loger dans le stationnement.
Ça coûte moins cher qu'un loyer.
Mais pensez-vous, c'est une situation d'itinérance,
oui,
ça, une situation
absolument.
D'itinérance. Parce que si tu ne passes pas dans le stationnement et tu ne le vois pas coucher dans son char, sur la banquette arrière, tu t'en rendras jamais compte. Il y a un article dans Le Soleil qui est arrivé ce matin, Eric, puis je voulais t'en parler parce que ça a été mon premier réflexe d'en parler avec Jeff parce qu'il est très au fait de l'itinérance puis il est très touché par ça aussi, tout comme nous autres à Boulevard. On parle de vol, de vandalisme, d'agression, des citoyens du Vieux-Québec qui s'inquiètent de la montée de la criminalité dans leur secteur. Et tout de suite, on fait une corrélation avec l'itinérance.
Ouais.
C'est comme si quelqu'un qui... tu sais, on a tous été des petits bums. Là.
Ouais.
On avait des chums qui étaient des voleurs. C'était pas des gens qui étaient en situation d'itinérance.
Ben
mais c'est comme si on fait une corrélation directe. Itinérant, voleur, criminel. Ça doit t'écœurer quand tu vois ça.
Non. Les réactions sont... C'est des réactions normales, ça. Moi, je suis pas sociologue, les gars. Je suis pas... Moi, ce que je fais, c'est que je reçois des gens... Je les héberge, je crée des liens, j'essaie de qu'ils pognent des outils pour être capable de passer au travers une société dans laquelle ça coûte plus cher puis qu'on a de moins en moins de services. Là.
Ouais.
Mais quand j'entends ça, je me dis oui, en effet, ça se peut qu'il y ait des personnes qui ne sont pas en situation d'itinérance, que le crime augmente. Moi, je veux parler de vulnérabilité des sociétés.
Ouais.
Notre société est plus vulnérable qu'elle était, on le voit là. T'sais. On le voit parce que les gens s'endettent, le coût du panier d'épicerie augmente. Là. Ça ne crée pas de l'itinérance, j'ai dit plusieurs fois, mais c'est que les freins à être autonome sont de moins en moins présents. Mmh. Fait, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça crée de la pauvreté. La pauvreté, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente la criminalité. C'est pas nécessairement itinérant. Moi, je pense que c'est plus un lien, comment ils disent en statistique, corollaire, là, c'est-à-dire plus les sociétés sont vulnérables et plus le crime augmente et plus l'itinérance augmente aussi. Est-ce qu'il y a un lien direct? Pas capable de mesurer ça.
Ben,
je suis pas
un
scientifique.
Moi, j'ai de la misère avec
là.
Ça parce que les gens qui quémandent la nourriture, les gens qui quémandent de l'argent dans la rue, c'est pas nécessairement des voleurs ou des criminels.
Faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est ça qui est important. Est-ce que dans les gens qu'on accompagne, tu as des gens qui ont des comportements délinquants en situation de survie? Hier soir, là, si tu n'avais pas de place pour rester et tu avais froid, est-ce que tu as défoncé un endroit pour aller te réchauffer?
Ouais.
Ça se peut. Est-ce qu'on tolère ça? Ben non. T'sais, on peut pas tolérer des comportements inacceptables. En même temps, est-ce qu'on est capable de comprendre? Ben oui. Tu avais fret, puis au lieu de te geler, tu as rentré quelque part. Maintenant, est-ce qu'il y a des comportements criminels qui ont lien à voir avec l'itinérance? C'est sûr que oui aussi. Moi, ce que je connais, quand on parle aux gens qu'on accompagne, c'est plutôt des gens qui veulent pas avoir de troubles, qui s'isolent, qui ont honte de leur situation, qui veulent souvent... Fait que je vois pas de je vois pas tant de crimes organisés, ouais. Là, au jour le jour. C'est des gens qui souffrent, qui vont quémander dans la rue, qui sont en situation de survie.
Moi, il y a toujours une statistique qui me perturbe, et tu viens d'en parler avec le coût de la vie qui augmente, le panier d'épicerie. Êtes-vous encore à 80 % des gens que vous voyez que c'est leur première situation d'itinérance?
L'année passée, c'était 72 % des personnes. En 2024, 72 % des demandeurs étaient des personnes qui n'avaient jamais connu l'itinérance, jamais venu dans un refuge avant. Il y a deux ans, c'était 75 %. Alors, même si, honnêtement, là, on a beaucoup plus d'outils pour faire face à l'itinérance qu'on en avait. Moi, j'étais à pleine capacité au niveau des projets, des leviers. On travaille pour le regroupement aux itinérants de Québec. On est plusieurs. Aujourd'hui, la Ville va annoncer, je vous le dis en primeur avant qu'il l'annonce, l'ouverture du répit Basse-Ville de nuit qui va ouvrir ce soir. Il va y avoir une conférence de presse cet après-midi. Alors, tout ça fait qu'on est complémentaires là-dedans. C'était quoi ta question, Jeff?
Bien, c'était si on est encore aux alentours de 80 % des gens
absolument.
Qui vivent une situation
d'itinérance. Ce que je veux dire, c'est qu'avec tous les partenaires, on le fait beaucoup mieux qu'avant, mais malheureusement, il y a trop de nouveaux visages, alors ça augmente.
Puis là, le répit Basse-Ville, ça va-tu être ouvert à l'année ou c'est encore juste pour la période hivernale?
C'est pour la période hivernale.
C'est ça qui est tannant. Ouais. Ça prend vraiment une autre ressource parce que vous pouvez pas gérer toutes les situations, alors, d'autant plus ceux qui sont en problème de toxicomanie ou de problèmes de santé mentale plus graves, là, je vais l'exprimer comme ça. Là.
Tu l'amènes bien. T'sais, en fait, là, nous, on a besoin des gens pour continuer à offrir les services, à maintenir les acquis. Le centre de jour aujourd'hui, là, étant donné que le répit maintenant va ouvrir de nuit, on est à peu près le seul gros centre de jour qui va accueillir les personnes en situation de désaffiliation aujourd'hui. Il y a d'autres ressources aussi, mais je veux dire, si on n'était pas là, je me demande ce qui se passerait. Là.
Ben, c'est ça.
Alors, c'est sûr qu'on a besoin de la population pour nous aider à maintenir les acquis. Est-ce que c'est suffisant? Absolument pas. Alors, j'ai déjà besoin, moi, de l'aide du monde pour maintenir les acquis, puis ça prendrait plus de ressources. Tu sais, dans Saint-Roch, il n'y a pas d'endroit, si tu ne vas pas dans un refuge, pour déposer tes bagages. Il n'y a pas d'endroit pour prendre ta douche si tu ne fais pas lien avec une ressource.
C'est vrai.
La nuit...
Ça existe ailleurs. Exemple, tu viendrais déposer tes bagages dans un petit casier, puis tu le reprends après.
Oui, il y a des services, il y a des modèles qui existent ailleurs, mais là, je te parle de besoin de bord. Mais évidemment, faut pas. C'est très complexe, cette itinérance. Faut pas juste mettre des choses comme ça en place. Je pense que ça prend du travail en amont. C'est pas normal qu'il y ait des nouveaux visages autant. Tu sais, j'ai une madame que je parlais il n'y a pas longtemps qui me disait « Là, c'est quoi qui va m'arriver avec mon garçon? » On est allé chercher de l'aide 2-3 fois dans un CLSC. Puis là, le temps d'attente est 2 ans pour voir un psychiatre. 6 mois, puis il me dit qu'il commence à entendre des voix. Mais là,
fait qu'on le garoche dans la rue. Là, fait, si
non, mais c'est
deux
ça.
Mais
là, il est écœuré d'aller chercher de l'aide avec moi. Pour lui, ça fait plus de sens. Fait que tu sais, le travail préventif, là, il n'est pas fait. Non. Fait que, tu sais, le coût de la vie, l'accès au logement, le travail préventif en santé mentale, physique, il n'est pas fait. Tout ça, c'est des facteurs de risque qui font que, d'année en année, le nombre de demandes de nouveaux visages augmente. Fait que je peux bien faire du curatif, bien le faire, puis je pense qu'on le fait bien, mais juste seulement faire ça, ça ne marchera pas.
Éric Boulay, directeur général de la maison Laubrivière. Les appartements en haut, le taux de réussite de réinsertion sociale, là, ça ressemble à quoi?
Il est formidable. Ça va très, très bien.
Formidable, c'est quoi ça?
Ben, écoute, c'est parce qu'il faudrait définir la réussite. C'est quoi la réussite? Dans la vie, tu peux aller bien, puis un an après, aller moins bien.
Ils réintègrent le système, c'est-à-dire qu'ils sont capables de travailler, puis ils sont capables d'avoir un appartement.
Alors, est-ce que tout le monde dans la vie est capable de travailler 9 à 5 du lundi au vendredi, comme moi et plus vous autres, on le fait bien plus que ça, là? Faut être assez fou pour faire ça, là, t'sais, pour réussir à faire ça. Je pense que oui, la situation des gens s'améliore drastiquement avec les gens qui vont en appartement. On a 18 logements après un an ou deux. Ben écoute, la grande majorité des personnes, ça se passe bien à leur sortie de logement.
Wow.
Ou si on sent que la personne ne sera pas être capable d'être un citoyen très productif, là, c'est-à-dire travailler 50 heures semaine, puis il y a moyen d'améliorer sa situation, que la personne aille dans un chalet, mais là, c'est nous qui l'ont référé à plus long terme, mais mettons, aller faire du bénévolat dans une ressource, s'occuper, elle n'a plus de tentative de suicide, elle va plus dans les services d'urgence. Les services d'urgence, ça coûte très cher. Oui. Là. L'Union des municipalités avait fait une étude, hein, c'était 72 000 $ par personne, par année, laisser ça à elle-même. Alors, la prendre en charge, même si les logements ne travailleront pas du 9 à 5, c'est pour ça que j'hésite à dire 72,3% des gens réussissent, parce qu'il faudrait définir la réussite. Pour moi, la personne qui réussit à ne plus être dans les services d'urgence, à ne plus être en dessous des bretelles d'autoroute sous la pluie, là, puis augmenter son estime, même si c'est pas dans le modèle de production nord-américain qu'on a, ben c'est une réussite aussi. Là.
Est-ce que mes taxes que j'envoie aux municipales, là, est-ce que mes taxes subviennent aux besoins de 100% de l'Aubrivière?
Ben, je suis pas très bon, moi, dans les taxes puis le politique. Bien essayé, hein? Moi, je sais que la Ville nous supporte. Maintenant, la Ville, je pense que l'itinérance, c'est une responsabilité collective. La preuve, là, je serais pas ici ce matin pour dire aux gens, aidez-nous à aider, là, mais la Ville, c'est pas eux qui vont subventionner les projets qu'on a. Nous, on a le noyau dur qui est subventionné. Bien, subventionné, c'est la population qui nous supporte dans ce qu'on fait. Si elle serait pas là, on serait pas capable. Maintenant, les projets, là, je parle de PRIS, tout ça, oui. Ça vient du gouvernement provincial. Parfait. Et du gouvernement fédéral. On a une enveloppe de base de la Ville qui nous supporte. Là où la Ville est importante pour nous, c'est être capable de... Que j'ai appelé ce matin pour dire, ça a brassé cette nuit, qu'est-ce qu'on fait? Chapeau à la police, au travail des policiers cette nuit. Si les policiers n'avaient pas été là... Je pense qu'il y aurait des situations plus graves qu'il y aurait eu cette nuit. Alors, la Ville, c'est ça son rôle, c'est d'avoir un lien, une communication, et qu'elle amène tout ça au gouvernement supérieur.
Mais qui paye pour la bouche? Qui paye pour la bâtisse?
Alors, bien là, le budget, c'est complexe, ça. La nourriture, la grande majorité de la nourriture qu'on reçoit, c'est Moisson Québec.
Okay.
Qui vont nous donner ça. Quand on donne de la nourriture à Moisson, mm-hmm. On aide l'Aubrivière aussi. Maintenant, il y a un petit bout où on a un coût d'achat parce que on sert, l'année passée, c'est 157 000 repas qu'on a servis.
Wow.
Alors, il y a un petit bout où on achète, mais la grande majorité, c'est monsieur, madame, tout le monde qui amène des denrées, qui vont porter des denrées à l'Aubrivière, ou un centre des congrès qui a resté de la bouffe et qui vient nous porter ça. Mais la grande majorité, c'est Moisson Québec aussi. Maintenant, bon, les subventions par projet, pour aider des gens, ça prend des ressources spécialisées en santé mentale. Moi, je suis un intervenant de crise de formation, là. Maintenant, quand j'étais sur le terrain, il fallait payer mon salaire. C'est pas chic à dire, parler de ça, salaire.
Alors, mais
maintenant,
ça.
Moi, j'aime ça d'en parler en disant en même temps que l'année passé, 2000 personnes ont fait 30 000 heures de bénévolat. Fait que si on serait toutes payées au salaire minimum, ça coûterait encore plus cher de subvention, ces gens-là. Mais oui, ça me prend des professionnels de relations d'aide.
Vous devez avoir une fondation pour ramasser de l'argent. On fait comment?
Alors ça, on a besoin de vous autres. Ceux qui écoutent, là, parce que je veux vous rappeler quelque chose. Quand on aide une personne, il y a 4-5 personnes qui sont touchées par ça. C'est pas les gens qu'on accompagne, c'est pas des gens différents de vous et moi, là. C'est du monde, là. Personne n'est à l'abri. Alors, tu sais, ils ont une mère quelque part, ils ont un frère, une sœur. Tu sais, il y a un réseau social qui est touché. Alors, cette année, le lancement de notre campagne, c'est ça, là. C'est pas des inconnus, c'est des gens qui nous côtoient, qui sont là-bas, des gens proches de nous. Alors, pour nous supporter, on peut donner à l'aubrivière.org pour donner un don. Et ceux qui veulent nous aider directement ce matin, là, peuvent faire le mot « vie » au 410-10-410-10. Ça va faire un don de 25 $ à l'Aubrivière qui va être directement pour maintenir les acquis et aider les gens qu'on accompagne au jour le jour. Là. C'est le lancement de la campagne. Alors, vous allez recevoir bientôt une enveloppe dans votre poste. Alors, nous, c'est notre campagne de publipostage. Heureusement, les gens sont généreux. Puis, je me dis, ça n'a pas de bon sens parce qu'il y a de moins en moins de gens qui ont dessous, là. Mais les gens sont généreux et ont réussi à lever assez de fonds pour maintenir les acquis d'année en année. Maintenant, il faut que les gens soient encore au rendez-vous. Imaginez-vous, là, la température qu'il fait dehors ce matin, là. Il fait pas beau. Si les gens nous aident pas, là, ça marchera pas.
Pour les gens qui ont des surplus d'épicerie, peuvent-tu aller vous porter ça directement à l'Aubrivière?
Absolument.
Parfait. Pour les gens qui ont des surplus de vêtements?
Alors, les vêtements, par exemple, on sous-traite ça avec nos partenariats parce que j'ai pas de friperie. Moi, j'ai des petits garde-robes cachés et ça, ben, j'ai des compagnies là, qui nous ont beaucoup aidés, là, Gestoc, La Tulipe, tout ça, Avalanche qui va bientôt faire quelque chose. Alors, mes garde-robes sont bien garnis, mais les besoins excèdent. Alors, moi, mon service, c'est d'héberger, nourrir et d'avoir des leviers pour sortir les gens de la rue.
On va directement
le vêtement, nos partenaires du RAIC, le Café Rencontre, YMCA, tout ça, vont habiller les gens.
Je veux des dindes pour Noël. Là. J'en ai acheté une de trop. Je peux-tu aller apporter?
Ah oui, vraiment, vraiment. L'année passée, là, on va le faire aussi cette année, là, 400 dindes. 400 dindes qu'on a besoin pour les mois à venir, mais le jour même, là, c'est près de 800 dindes qu'on a reçus.
Pour motiver les gens à donner, justement, êtes-vous comme tous les organismes communautaires, ça veut dire 70-75% de votre budget, c'est des dons puis c'est de l'argent que vous allez chercher vous autres même, c'est pas le gouvernement qui vous le donne?
Dans mon calcul, là, je n'ai pas fait le calcul, mais oui, à peu près.
Oui,
là,
c'est ça.
50-50, peut-être. Là.
Fait que tu as besoin.
Boulay, c'est un gars de terrain, c'est pas le comptable.
Ah, vraiment. Moi, je suis pas un politicien. Je suis pas un... Mais tu sais, j'ai hâte de retourner au bureau justement pour voir comment ma gang va. Quand je vous ai demandé cette nuit comment vous vous sentez, ben c'est un grand sentiment d'impuissance qu'on a vécu cette nuit.
Ces gens-là sont des missionnaires, ça doit tellement leur faire mal.
Éric Boulay, merci beaucoup à toi et toute ton équipe de s'occuper des itinérants à Québec. On te remerciera jamais assez.
Merci d'être là, tout le monde.
Puis pour les gens qui ont des trucs à donner, de l'épicerie, ben rendez-vous directement à l'Aubrivière. Vous allez voir, c'est pas compliqué. La porte d'entrée va être ouverte justement pour vous, puis il y a des gens qui vont vous accueillir. Merci. Hey, ce soir, ne manquez pas, après Marceau le soir, donc Marceau le soir, c'est de 18h jusqu'à 19h, c'est le prof d'En cause qui s'amène sur les zones de boulevard. Puis le prof d'En cause, ben, il parle des enjeux éducatifs d'aujourd'hui et de demain. Ça s'appelle L'apprentissage, le 4e épisode, c'est comme ça qu'on l'a nommé. C'est Steve Masson qui va être là, qui est professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM. On va aborder les mythes sur l'apprentissage, quelles sont les meilleures stratégies d'études, quoi faire ou ne pas faire pour optimiser l'étude de nos enfants ou encore nos propres études à nous. Et si on est capable de vous présenter ce podcast-là, c'est grâce à la belle gang de la Caisse des Jardins de l'éducation qui vous accompagne avec constance et engagement, parce qu'être là pour la communauté qui façonne notre avenir, c'est notre raison d'être. Il est 9h15, on fait une courte pause, on vient.
Boulevard 102.1.